Pi, il est 13h10 en temps universel, 15h10 dans nos studios à Paris. Voici le journal d'Haïti et des Amériques avec vous, Mickaël Ponge. Bonjour.
Bonjour Raphaël, merci. Il est 9h10 à Port-au-Prince. Haïti, pays à même de recevoir les migrants haïtiens refoulés des États-Unis. Vous allez entendre à ce sujet la réponse de Washington au micro de RFI. On retrouvera aussi, comme chaque jeudi, bien sûr, notre confrère Franz Duval à Port-au-Prince. Et puis l'Ouest américain en proie à une méga sécheresse, ça c'est notre dossier du jour. Et puis, dans une quinzaine de minutes, la fin de la campagne sucrière à Marie-Garland. Ce sera à la une du journal de la première avec vous, Benoît Ferrand.
Oui, une campagne sucrière 2022 décevante, 56 000 tonnes prévues, 43 000 tonnes de canne seulement livrées à l'usine.
A tout à l'heure Benoît et bienvenue à tous. Il avait promis une rupture, une politique plus humaine en la matière. Un an et demi après son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden n'a guère fait évoluer sa réponse face aux flux migratoires par rapport à l'ère Trump. Malgré la situation sécuritaire en Haïti, son administration continue ainsi de renvoyer chez eux les Haïtiens arrivés clandestinement sur le sol américain. À l'occasion de son passage à Paris en ce moment même, nous avons profité de la présence d'Alejandro Mayorkas, le secrétaire à la sécurité intérieure, pour lui demander si les États-Unis considéraient Haïti comme pays suffisamment sûr pour renvoyer des dizaines de milliers de citoyens. Écoutez sa réponse.
Ce sujet suscite de vifs débats aux États-Unis. Nous avons étudié la situation du pays pour déterminer si elle justifiait l'octroi de ce que nous appelons le statut de protection temporaire, le TPS. Nous avons étudié la situation et, par exemple, décidé que le TPS était justifié. Et nous l'avons prolongé lorsque le président a été assassiné. Mais à l'heure actuelle, nous pensons que la situation du pays ne justifie pas une prolongation ou une nouvelle désignation du statut de protection temporaire, et nous renvoyons donc ces personnes en Haïti. Nous sommes conscients de la violence sur place, des gangs, et c'est pourquoi il ne s'agit pas seulement de renvoyer les Haïtiens, mais aussi d'une collaboration avec l'USAID et le département d'État pour investir dans le pays. Et puis nous voulons aussi construire des voies sûres pour que les Haïtiens puissent venir aux États-Unis. Lors du sommet des Amériques, il y a quelques semaines, nous avons parlé de notre engagement à étendre le programme de regroupement familial haïtien comme l'une des voies possibles. To expand the Haitian Family
Reunification Program as one avenue. Alejandro Mayorkas, interrogé par Stéphanie Schuller. Les États-Unis, dont les émissaires dépêchés en Haïti depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, ont tous échoué à convaincre les protagonistes de la crise à trouver un accord politique. C'est ce qu'écrit aujourd'hui dans ses colonnes Le Nouvelliste. Bonjour Franz Duval.
Bonjour Michael.
Rédacteur en chef du quotidien en ligne avec nous de Port-au-Prince. Franz, c'est dans ce contexte qu'une élue américaine d'origine haïtienne tente de son côté de convaincre de la nécessité de trouver un consensus politique.
Tout à fait. Sheila Sherfilus McCormick, élu démocrate en Floride, essaie de parler aux responsables haïtiens, essaie de les encourager à trouver une entente. Elle a fait ça par Zoom, elle a essayé de parler à tous les secteurs, à des membres de la société civile, au gouvernement, aux représentants de l'accord dit de Montana, mais pour le moment, il n'y a pas encore de retombée de cette rencontre virtuelle. Mais il faut dire qu'elle est une jeune élue, c'est son premier mandat, qu'elle n'est pas connue à Port-au-Prince, qu'elle ne s'est pas déplacée et que pour le moment, on doute fort que cela va déboucher sur quelque chose.
Et puis vous l'écrivez aussi d'ailleurs, Franz, dans votre éditorial aujourd'hui. L'immobilisme, et c'est un problème, est le credo des politiques haïtiens de quelque bord qu'ils soient.
Tout à fait. Et dans moins d'un mois, le Premier ministre Ariel Henry aura un an au pouvoir. Il n'y a pas eu de décision majeure de sa part, il n'y a pas eu d'initiative. Bien entendu, il n'a pas poursuivi avec le référendum constitutionnel pour changer la Constitution comme le souhaitait le président Moïse, mais c'était déjà un projet mort-né du temps du président Moïse. Et hier, il a décidé de ne pas publier le nouveau code pénal et le nouveau code de procédure civile comme c'était prévu depuis 2 ans. Pour ainsi dire, c'est plutôt 2 inactions que des actions. Et pour le moment, c'est la même chose dans l'opposition, ou du moins dans ce qui est l'opposition en Haïti, parce qu'en réalité, il n'y a pas personne vraiment qui s'oppose ni qui pousse le gouvernement à faire mieux. Pour le moment, et l'opposition et le gouvernement se disent, ne rien faire, c'est déjà trop faire.
Le gouvernement France interpellé par les magistrats du pays au sujet de la situation au palais de justice de Port-au-Prince, la plus grande juridiction du pays qui est aux mains des gangs depuis maintenant plus de 10 jours.
Aucune initiative n'a été prise par les forces de sécurité pour essayer de récupérer le bâtiment. Mais là, l'Association nationale des magistrats haïtiens pointe du doigt le gouvernement, fait même de très graves accusations, explique que ce qu'on voit, c'est encore pire que ce qu'on craint. C'est pas seulement des bandits qui ont pris le bâtiment, mais c'est de hautes autorités qui sont en train de faire partir en fumée des preuves, des éléments de dossier et peut-être des choses compromettantes pour elles. Et les autorités au plus haut niveau sont pointées du doigt par les magistrats haïtiens. Mais il faut dire que ça fait des années que la justice et la politique en Haïti ne font pas bon ménage et qu'à chaque fois, il y a des accusations dans un sens ou dans l'autre. Mais cette fois, le palais de justice a été investi par des bandits et les autorités politiques et policières n'ont pas donné l'ordre d'essayer de récupérer le bâtiment. C'est une situation très grave qui se déroule pendant que déjà la majorité des corps du système judiciaire étaient soit en grève, soit en total dysfonctionnement.
Et tout ça est donc à lire dans l'édition du Nouvelliste de ce jeudi. Franz Duval avec nous de Port-au-Prince. Merci.
Radio France Internationale. Las voces del mundo.
8h16 à Bogota, une heure de plus à Caracas. Bonjour Christophe Paget.
Bonjour.
La Colombie et le Venezuela parlent réouverture de frontières. Et c'est à l'une de la presse.
Certes. Gustavo Petro, tout juste élu président en Colombie, avait promis pendant sa campagne de rétablir les relations avec le Venezuela, rappelle El Tiempo. Et Caracas l'a entendu puisque dès sa victoire dimanche, le Venezuela lui a demandé dans un communiqué de rétablir ses relations. Gustavo Petro et Nicolas Maduro ont donc parlé hier de ce qui, pour El País, sera un des défis les plus complexes du président colombien. D'autant que, explique un spécialiste contacté par le journal, un rapprochement implique d'aller vers une reconnaissance du gouvernement vénézuélien, ce qui nécessite une négociation. Les spectateurs rappellent que si le Venezuela a rompu les relations diplomatiques en 2019, c'est parce que le président colombien d'alors avait reconnu l'opposant vénézuélien Juan Guaido comme président par intérim.
Christophe, pourquoi Gustavo Petro veut-il rétablir ses relations diplomatiques ?
Pour répondre à la violence qui affecte les plus de 2000 kilomètres de frontières communes, souligne les spectateurs, mais aussi pour relancer le commerce entre les deux pays, 7 milliards 200 millions de dollars d'échanges en 2008... 400 millions l'an dernier. Pour autant, affirme un analyste, un éléphant pourrait passer la frontière au nez et à la barbe des autorités. Mais que la fermeture oblige en fait les entreprises à prendre des risques pour faire passer les marchandises. Le journal vénézuélien Nacional a contacté des entrepreneurs vénézuéliens. Ils voient effectivement la victoire de Gustavo Petro comme une étape importante qui va engendrer des relations commerciales fructueuses. Nous sommes appelés à construire un destin commun, a même dit le président des chambres et associations du commerce et production du Venezuela, pour qui la première chose à faire, c'est de rétablir les relations diplomatiques.
Vous nous emmenez à présent au Mexique, Christophe, où le président Obrador hier a lancé une commission d'enquête sur les abus commis pendant la guerre sale dans les années 60 à 80 par le PRI, le parti qui a été au pouvoir pendant des dizaines d'années.
Le ministre de la Défense, le général Sandoval, était à la cérémonie organisée dans un camp militaire et pendant son discours, il a été invectivé par les familles des disparus, rapporte El Universal. Où sont les disparus et les coupables ? Justice pour eux. Le président Manuel López Obrador a par contre remercié le général Sandoval pour avoir accepté d'ouvrir les archives militaires afin de faire la lumière sur les disparitions, parlant, rapporte Hornada, d'un acte très fort et significatif pour une nécessaire réconciliation du pays. Lors de la cérémonie, les familles de victimes, selon Milenio, ont dit faire confiance au président, mais pas à l'armée.
Sa mort a fait pleurer ses fans du monde entier le 25 novembre 2020. Disparaissait l'icône du foot, le légendaire numéro 10 argentin, Maradona, décédé d'une crise cardico-respiratoire. Christophe, un procès va avoir lieu sur le sujet en Argentine.
Oui, la décision a été prise ce mercredi, le jour où, note la Nación, on fête le 36e anniversaire du meilleur but de tous les mondiaux de football, celui marqué de la main par le footballeur argentin, la fameuse main de Dieu. 8 professionnels de la santé, médecins, psychiatres, psychologues, seront donc jugés pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes, détaille El Día. L'équipe du procureur avait conclu après enquête que l'équipe médicale de Maradona s'était montrée déficiente, imprudente et indifférente. Dans Parina Doce, l'avocat d'un des enfants de Maradona affirme que le procès montrera que le joueur, pendant ces derniers jours, avait été abandonné.
RFI. The World's Voices.
C'est devenu son problème numéro un en cette année électorale aux États-Unis. Joe Biden tente par tous les moyens de faire baisser la fièvre inflationniste qui pèse sur les ménages. Une inflation portée notamment par les prix de l'essence. Alors hier, le président des États-Unis a fait deux propositions.
En suspendant la taxe fédérale sur l'essence de 18 cents pour les 90 prochains jours, nous pouvons baisser le prix de l'essence et donner un peu de répit aux familles. J'appelle les compagnies à répercuter cette baisse aux consommateurs au centime près. Ce n'est pas le moment d'en profiter. C'est pourquoi ma deuxième décision, c'est d'appeler les États soit à suspendre également leurs taxes sur les carburants, soit à trouver un autre moyen de donner un peu de répit. Grâce à notre reprise économique historique, les États sont maintenant suffisamment forts pour se permettre d'agir dans ce sens.
Et ce matin, la presse commente, Christophe.
Oui, le New York Times remarque que si lors de cet appel, les républicains ont levé les yeux au ciel, beaucoup de démocrates se sont demandé pourquoi cette demande arrivait si tard. Car, note le journal, des variations sur ce concept ont rebondi d'État en État depuis presque un an, menées par des gouverneurs démocrates mais aussi républicains. Pour autant, le Boston Globe estime que suspendre la taxe sur le carburant est un gimmick, comme l'a dit en son temps Barack Obama, parce que même si le Congrès et les États suivent Joe Biden, l'impact sera minime. En plus, la taxe sur le carburant sert à financer les transports. Saper le financement des infrastructures publiques pour résoudre une crise à court terme n'a aucun sens, martèle l'éditorialiste. Pour le Wall Street Journal, suspendre cette taxe fédérale pour 3 mois, c'est juste assez pour réduire la colère des conducteurs, pardon, des électeurs, quand ils remplissent leur réservoir cet été. A-t-on déjà vu tentative plus clairement cynique d'acheter des votes? S'étrangle le journal. Les élections de mi-mandat, rappelons-le, sont prévues pour novembre prochain.
Et surtout que Joe Biden, lui, n'a guère vraiment la main sur le sujet. Christophe Pagé pour la presse, merci.
Oh my gosh! Oh man, that's a lot of liquid.
Crédule, incrédule ce témoin qui observe les Canadairs déverser leur eau sur une portion du gigantesque Pipeline Fire, immense incendie qui a déjà dévoré des milliers d'hectares dans le centre de l'Arizona au sud des États-Unis. Un feu alimenté par un sol sec. L'Arizona, comme la Californie, le Texas, le Nevada ou l'Oregon, bref, tout l'Ouest américain qui subit une sécheresse inédite. Plus de 20% des terres sont classées, selon les données officielles, comme connaissant une sécheresse extrême, voire exceptionnelle. On parle là de méga sécheresse. La faute aux aléas du climat, mais aussi à l'activité humaine et à une surutilisation de l'eau pour l'agriculture. C'est notre dossier du jour. Il est signé Anaëlle Larue.
Les Américains du sud-ouest des États-Unis y sont habitués. Cette année encore, ils devront réduire leur consommation d'eau. Rebecca Bernat habite à Phoenix, en Arizona. Elle constate les effets de la sécheresse depuis quelques années.
Les agriculteurs se rendent compte que certains puits, en fait, ne pompent plus d'eau. Il faut construire un autre puits, plus profond. Les conséquences se voient au niveau des lacs, et particulièrement le lac Mead et le lac Powell. On voit où le niveau d'eau était il y a 20 ans. C'est assez impressionnant, en fait, de voir à quelle vitesse les réservoirs se vident.
Le lac Mead et le lac Powell sont des lacs artificiels construits grâce à des barrages permettant de maintenir l'eau du Colorado. Ce fleuve alimente ainsi les États du Nevada, de l'Arizona et de la Californie. Mais ce modèle artificiel s'essouffle selon David Blanchon, spécialiste des phénomènes de sécheresse dans le sud-ouest des États-Unis.
Depuis quasiment la mise en valeur du début du XXe siècle et le partage des eaux du Colorado, on a un développement qui est fondé sur une maîtrise et une exploitation complète de toutes les eaux de la région, et qui en fait qui viennent des zones enneigées, que ce soit de la Sierra Nevada ou des montagnes rocheuses. Et là, on voit que ce système-là, en fait, arrive finalement à ses limites. Ces barrages, justement, étaient là pour faire que, même s'il y avait une ou deux années sèches, finalement, on stockait suffisamment d'eau, donc ça va à peu près. On arrivait à passer les sécheresses, on va dire, conjoncturelles, une année sèche, deux années sèches, avec pas assez de neige. Mais là, on est arrivé à peu près aux limites du développement de l'Ouest américain.
Avec le réchauffement climatique, le manteau neigeux des montagnes est plus fin, le niveau du fleuve Colorado est donc plus bas et les réservoirs ne se remplissent plus. Cela représente un danger pour les très nombreuses exploitations agricoles en Californie, implantées dans des lieux déjà peu propices à l'agriculture.
La Grande Vallée de Californie est extrêmement sèche. L'Imperial Valley, qui est aussi une grosse zone agricole, lui est carrément un désert, des déserts les plus chauds et les plus arides du monde. Il faut voir que c'est une grande partie de la Californie, notamment le sud, est une zone qui est extrêmement aride. Il y a juste la côte qui est un peu arrosée, mais elle n'est pas du tout faite normalement pour l'agriculture. Donc on peut bien voir qu'on est dans un système qui est extrêmement artificialisé.
Dans cet état, les agriculteurs représentent moins d'1% de la population, mais ils assurent l'approvisionnement en fruits et légumes de presque tout le pays. Leur consommation d'eau est donc énorme.
Les fermiers ont souvent des droits extrêmement forts sur l'eau, ce qui fait qu'ils ont leurs droits et ils ont leur volume. Et finalement, ça ne les encourage pas forcément à utiliser l'eau de la façon la plus efficiente. C'est-à-dire qu'ils vont arroser au maximum, prendre les cultures les plus rentables. Ça correspond à des logiques de marché, en fait, hein, et donc qui est des logiques économiques qui ne correspondent pas aux logiques environnementales, on va dire ça pour faire rapidement. C'est un poids, effectivement, de prélèvement des ressources en eau extrêmement important. En Arizona, c'est quasiment entre les deux tiers, 70%, 80%, ça dépend à peu près des régions. Mais là, il faut faire attention. Hein. Il y a des affiches, quand on se promène en Californie, adressées aux urbains en disant « Oui, mais enfin, cette eau que j'utilise, c'est pas pour moi, c'est pour vous nourrir. » Voilà, donc il ne faut pas opposer non plus hein, les fermiers et les utilisateurs urbains.
Quand le niveau des barrages est au plus bas, certains États comme la Californie ou l'Arizona puisent leur eau dans des nappes phréatiques artificielles. Mais pour Agnès Ducharne, chercheuse au CNRS, les sécheresses vont perdurer et cela aura de lourdes conséquences.
Ça a tendance à renforcer le risque d'incendie et on l'a vu l'année dernière. Hein. Et donc, quand il y a des sécheresses majeures, toute la végétation est en stress, peut mourir, des arbres sont sûrement déjà morts l'année dernière. Et quand la végétation n'est pas bien, les animaux qui se servent des écosystèmes, soit comme abri, soit comme nourriture, ne vont pas bien, sans parler des écosystèmes aquatiques. Non, je pense que c'est une grave crise environnementale.
Pour la chercheuse, les efforts doivent se faire à grande échelle. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est un impératif urgent.
Dossier signé Anaël Larue.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Mickaël.
La campagne sucrière 2022 s'est achevée hier sur l'île de Marie-Galante. Campagne décevante, Benoît.
Oui, la sécheresse a sévi. Là aussi, conclusion, une prévision de récolte de 56 000 tonnes de canne et au final 43 000 seulement livrées à l'usine. Une usine qui a d'ailleurs tourné, elle aussi, au ralenti. Josiane Champion.
42 642 tonnes de canne broyées par la sucrerie, jamais Marie-Galante n'aura connu une récolte aussi maigre, hormis les 29 000 tonnes de l'an dernier rescapées après la fermeture de l'usine. Vu le faible tonnage, la récolte aurait dû se terminer en mai, mais l'état des parcelles a compliqué la coupe et la faible densité des cannes a ralenti le remplissage des chariots. La réalité, c'est que cette cadence a collé au rythme de la sucrerie qui n'aurait pas pu absorber plus, car la chaudière remise à neuf a été mal réglée au départ, ce qui a entraîné de nombreux petits arrêts intempestifs et une capacité de broyage réduite à moins de 700 tonnes jour au lieu des 1200 escomptés. Il y aura des travaux d'ajustement pendant l'intercampagne. La direction de la SRMG estime toutefois avoir tenu son pari pour 2022, refaire fonctionner l'usine pour transformer la canne sur l'île. Place maintenant au plan de modernisation de l'outil sur 5 ans. Il ne va pas sans le plan de relance de la production cannière. Objectif 130 000 tonnes d'ici 2027 pour le sucre, plus 20 000 tonnes pour les 3 distilleries de l'île.
Josiane Champion de la première Guadeloupe, direction maintenant la Martinique avec un tout autre sujet. L'interpellation spectaculaire hier matin dans le quartier de Gaudissart, Fort-de-France. Du castor. Le castor, c'est le surnom donné à un individu impliqué dans plusieurs homicides. Guillaume Mougy est le directeur de la police nationale en Martinique.
Je pense que c'est une arrestation extrêmement importante dans le cadre d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction. Je ne pourrais pas parler de l'enquête, mais c'était un individu dangereux pour lequel la direction territoriale de la police nationale de la Martinique a mis les moyens. C'est une affaire de longue haleine, de plusieurs mois. Nous avons fait appel à l'antenne RAID afin d'interpeller cet individu. Cette opération a été couronnée de succès. Il n'y a pas eu de blessés, ni pour les policiers, ni pour l'individu. Et donc, nous avons gagné une bataille. Nous n'avons pas gagné la guerre, mais nous continuons à rester déterminés.
Bon après-midi, Mickaël. À demain.
Merci beaucoup Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première. On se retrouve en effet demain pour le dernier rendez-vous de la semaine de notre rendez-vous d'Haïti des Amériques qui était réalisé aujourd'hui par Claude Battista. Vous le savez, vous pouvez nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur RFI Pure Radio. Très bonne journée à tous à l'écoute de la Radio du Monde.
RFI, les voix du monde.